Île muette, île inoubliable sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ouvrir ensemble un nouveau carnet de voyage qui ce dimanche nous emmène au centre de la région moldave, à droite des Carpates orientales, à l'intérieur de la Roumanie. Là-bas, ou ici, se trouve un petit village dans lequel des musiciens professionnels tziganes appelés lautari jouent mieux que partout ailleurs. Ces fanfares jouent une musique dont le moteur esthétique est la ruse, la malice, la feinte et l'astuce. Il s'agit aujourd'hui d'intelligence musicale au sens propre, d'efficacité émotionnelle, tout le temps de virtuosité tellurique. Un art du détour dans lequel vous allez pénétrer sous le flot ininterrompu des notes et des clins d'œil. Pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'ethnomusicologue Victor Alexandre Stokitsa. Sans lui, cette musique vous paraîtra impressionnante de technicité, mais avec lui, c'est tout un univers sonore qui va s'ouvrir à vous sous le prisme de l'émotion, du plaisir et de la beauté. Bienvenue à lui, bienvenue à vous. Et maintenant, partons. Bonsoir à vous, Victor Alexandre Stokitsa.
Bonsoir, Edouard.
Comment ça va ?
Ça va bien, merci.
Est-ce qu'un ethnomusicologue ou un anthropologue spécialiste des pratiques musicales est en réalité tout le temps par l'esprit, par l'oreille en Roumanie ?
Dans mon cas, il y a beaucoup d'allers-retours, hein, qui reprennent d'ailleurs un petit peu les allers-retours des musiciens eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un univers dans lequel on peut passer beaucoup de temps par l'esprit. Et...
Qu'est-ce qu'on entend sous nos voix, Victor ?
Alors là, ce qu'on entend, c'est une hor. Hein. Normalement, c'est un air de danse, mais là, en fait, c'est trop lent vraiment pour être dansé. C'est une hor à écouter, disent les musiciens. Donc c'est ce qu'on jouerait, par exemple, dans un mariage, quand les gens sont à table, qu'ils mangent, qu'ils boivent, etc. Et c'est une hor assez typique du style moldave tranquille, disons. Il y a un style moldave agité et un style moldave tranquille. Là, c'est le style tranquille. Ce sont deux trompettistes, deux frères, qui jouent dans une subtile hétérophonie. On entend un peu que ce sont des frères dans la manière dont ils se suivent, ils suivent leurs inflexions. Et puis aussi, on entend aussi un joli travail de la section harmonique, et c'est cette section harmonique qui signe le style moldave par rapport à d'autres fanfares qu'on pourrait entendre dans les Balkans.
Alors, on va voir avec vous que la musique est un mode de communication. Certes, on va se rendre peut-être un peu plus compte avec les villages dans lesquels vous êtes allés, notamment Zezepredjin, on va en parler, mais que les lautari donc, abordent la musique comme une technique de manipulation émotionnelle. C'est ce qu'on se disait en en parlant. Victor, déjà, lautari, c'est quoi ?
Alors, les lautari, donc c'est un mot qu'on utilise un peu partout en Roumanie pour désigner des musiciens professionnels. Mais ça ne s'applique pas à tous les musiciens professionnels, ça ne s'appliquerait pas par exemple à des musiciens de jazz ou d'un orchestre classique. Ça s'applique à des musiciens professionnels populaires, donc qui jouent dans des mariages, les enterrements, les fêtes de saint patron, etc. Il se trouve aussi que la plupart de ces musiciens, 9 sur 10 en gros, sont tziganes. Et donc en Roumanie, c'est un petit peu synonyme, laoutar, musicien tzigane, c'est des termes synonymes. Mais bon, il vaut mieux les distinguer quand même parce qu'il y a la fonction de musicien professionnel et puis il y a l'ethnicité des musiciens qui sont quand même deux choses un petit peu différentes. Et ces laoutars, effectivement, ont une manière assez particulière de jouer, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas en artiste, mais plutôt en artisan. C'est pour ça qu'on peut les qualifier de fabricants d'émotions, c'est-à-dire qu'ils jouent sur commande dans les événements.
Contre rémunération, on va parler bien sûr de ce système de
absolument.
Rémunération.
Absolument, contre rémunération. Ils s'appuient sur la musique pour faire vivre leur famille, donc ce n'est pas simplement une rémunération occasionnelle.
Ni symbolique, même si...
voilà, mais il y a un réel enjeu économique. Et cet enjeu économique fait qu'ils investissent la musique de certaines attentes.
Alors
et...
dans ce sac de l'attente, on met quoi? C'est là-dedans qu'on met la ruse, la malice, l'intelligence musicale,
alors, c'est
les
de là
techniques
que ça
d'enchantement
voilà. C'est de là que ça sort, disons, c'est de là que ça sort. Moi, ce qui m'avait frappé au début, quand j'avais rencontré ces musiciens, bon, moi j'étais musicien et occidental, disons, donc penser comme ça, peut-être un peu naïvement, que la musique était une affaire de sincérité, de communication, d'expression, voilà. Et en fait, quand j'ai évoqué ces questions avec les léotards, ça ne leur parlait pas du tout. Oui, peut-être, mais enfin, ce n'est pas du tout ça.
C'est une question... Un musicien sincère, c'est un musicien bonnet, en fait.
Oui, enfin, tu peux être sincère, mais ce n'est pas sur ça, ce n'est pas avec ça que tu vas vivre, en fait. C'est ça l'idée. On ne peut pas s'appuyer dessus pour vivre. Il faut s'appuyer sur une technicité, et une technicité qui est aussi bien une technicité instrumentale, qu'une technicité plus subtile, d'ordre cognitif, sociologique, qui fait que la musique va marcher dans toutes les situations, y compris quand on joue pour des gens qui ont des goûts qu'on ne partage pas, par exemple. Et ça arrive en fait assez souvent que les musiciens jouent dans des villages où bon, ils n'aiment pas trop la musique de cet endroit-là, mais ils sont efficaces quand même, ils font quand même danser, ils font quand même pleurer sur commande. We'll be right back.
La Sirbad Brunesti, pour ouvrir ce carnet de voyage avec vous, Victor Alexandre Stoichitsa. Nous sommes donc en Roumanie, grâce à vous. Dans cette fanfare, donc un petit peu plus agitée, on parle de style moldave. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous sommes plutôt à l'orient de la Roumanie. Dans des petits villages de quoi ? De 1500-2000 habitants ?
Oh, c'est beaucoup moins que ça. La Zece Prejin, ils sont, au dernier recensement, ils étaient 550, très exactement. Donc c'est tout petit. Il y a des villages plus grands, mais là, c'est un village assez petit qui est constitué essentiellement de Roms, tziganes. Donc il y a des gens qui cochent la case Rom dans le recensement, donc ils se définissent eux-mêmes comme ça. Et qui sont, pour beaucoup d'entre eux, les hommes surtout, Leutar. Donc Leutar, c'est ce métier de musicien professionnel qui est associé à la tziganité en Roumanie. Pour autant, il n'est pas possible de définir Zece Prejin comme un village de Leutar, parce qu'il y a tous ceux qui ne jouent pas, il y a les femmes, il y a les enfants.
Mais vous me disiez quand même un village où se pratique une musicologie populaire. Quoi.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que la musique est la principale, était en tout cas dans les années 2000, la principale source de revenus du village. C'est par là qu'entrait l'argent. Après, il était redistribué de beaucoup de manières différentes. On embauchait le voisin pour couper du bois, pour...
etc. Mais on parle de quelle échelle, Victor Stoichitsa, sur cette rémunération ? Ça va très haut ou pas ? Pour un Leutar qui joue dans un mariage, saxophoniste.
Oui, alors normalement, s'il se débrouille bien, il peut gagner en une soirée l'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier. Voilà. Alors c'est une soirée, enfin c'est une nuit complète, c'est 24 heures en fait de musique, c'est le jour et la nuit. Et il repartait à l'époque, voilà, s'il se débrouillait bien, il repartait avec ce qu'aurait gagné un ouvrier, disons, non qualifié dans une usine en un mois.
Et la nature de cette rémunération, c'est bakchiche aussi, en plus de ce que les mariés donnent ou pas ou...
Alors il y a différents cas de figure, ça dépend. Il y a une somme fixe qui est établie par contrat, et puis il y a ce que les gens donnent pendant la performance musicale. Et ça dépend un petit peu des ensembles et des styles musicaux et des villages, etc. Mais disons qu'il y a de l'argent qui arrive par la musique, et puis les gens du coup s'intéressent à cela, et il y a une réelle passion musicale, donc les gens vivent beaucoup autour de la musique et ils en parlent tout le temps. Et c'est dans cette manière de parler qu'il y a une sorte de musicologie populaire qui apparaît.
Donc on va parler de concepts qui sont des concepts locaux, hein, bien sûr, qui ne sont pas des concepts que vous avez inventés, mais qui vous ont servi à structurer aussi votre enquête, c'est-à-dire la ruse, la malice, et notamment le fait que comment reconnaît-on et qu'est-ce qui fait la notoriété d'un bon Leutar ? On va rentrer dans un univers mélodique complètement hallucinant, où vous allez nous faire entendre justement en quoi un Leutar est meilleur qu'un autre, parce qu'il met de malice, de ruse, d'intelligence musicale.
Voilà, moi c'est un des mots comme ça qui ressortait. Alors c'est en romanesque, la langue tzigane, c'est tchoripé, tchor. Tchor, ça vient de voleur. C'est la même racine d'ailleurs qui a voyagé jusqu'en français pour donner chouré en français. Ça vient du manouche chouré en français. Et donc c'est l'idée de vol, mais d'un vol intelligent. Alors j'ai traduit ça par malice, parce que les gens disent c'est pas du vrai vol, c'est un vol avec une astuce, avec une ruse. Alors il y a un autre mot qui est shmekeri, qui était très employé par rapport aux structures musicales. Et moi ça m'avait étonné. Pourquoi est-ce que les gens disaient que dans telle mélodie, voilà, là il y a une ruse dans cette mélodie, lui il joue avec des malices, voilà, en employant ces termes. Donc j'avais essayé de comprendre à quoi renvoyaient ces termes dans les interactions entre musiciens et auditeurs, mais aussi dans les structures musicales.
Alexandre Stoichitsa, alors là, j'entends que ça va très vite, j'entends qu'il y a des changements d'harmonie, j'entends des petites notes. Où est la ruse ?
Alors, au départ, ça ne m'avait pas frappé non plus. Donc ça, c'est un clarinette solo qui joue avec une grosse caisse et quelques tubas. C'est une toute petite formation de fanfare. Ça ne m'avait pas frappé non plus, je n'avais pas remarqué. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai discuté avec le clarinettiste. J'ai simplement demandé, c'est quoi cette mélodie ? Batuta della Tarnitsa, il l'avait appelé. Et là, il commence à la fredonner. Et puis, à un moment donné, il s'arrête et il dit, tu vois, là, ben là, il y a une malice, il y a une tchorénie, et il emploie le mot. Là, il y a une malice parce qu'au lieu de jouer comme ça, et il va fredonner la mauvaise manière de jouer, ben non, moi je joue comme ça, il va fredonner la bonne façon de jouer. Alors, c'est extrêmement petit, mais pour lui, c'est très important.
Tere 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 t nu rămâne interval. Nu. O legi. Verigă cu verigă. Lați.
Et le corbeau derrière qui applaudit.
Oui, c'était les oies, je crois, dans la basse courue. Alors déjà, je ne sais pas si vous entendez la précision avec laquelle il fredonne hein, la mélodie. Ça, tous les musiciens fredonnent avec cette précision-là, qui est vraiment une précision analytique, c'est-à-dire que toutes les notes qui sont jouées par la clarinette, et on a entendu que ça va vite, elles sont toutes reproduites à la voix.
Et du donc coup, très intériorisées.
Très intériorisées, et dans les discussions musicales, du coup, on peut référer très très précisément à tel bout, tel autre bout, tel autre motif, etc. Et là, donc, le tout petit, c'est subliminal, hein, le petit morceau, mais justement parce que c'est subliminal, c'est pour ça que c'est une malice. C'est le truc qui va donner un tour supplémentaire.
Une
impulsion aux danseurs, en fait, au pas des danseurs. Les musiciens disaient aussi, ça s'entortille autour des jambes des danseurs et ça les fait tourner, en fait. C'est le petit truc qui les fait tourner. Tout le monde joue cette mélodie-là, mais là, quand on la joue de cette manière-là, avec ce truc en plus, eh bien, ça donne une petite efficacité supplémentaire.
Et donc, pour dire comment, à quel point, justement, un musicien intériorise cela, il y a un dernier exemple, c'est la comparaison entre ce qui est fredonné et ce qui est joué.
Voilà, c'est un petit mixage, on va passer de l'un à l'autre, du fredonnement au morceau joué.
Carnet de voyage en Roumanie avec Victor Alexandre Stoichitsa. Rejoignez dans Carnet de Voyage. Aujourd'hui, nous sommes en Roumanie grâce à vous, Victor Alexandre Stoichitsa. Et ça va vite, ça va très vite parce qu'on parle de malice, de ruse, d'intelligence musicale, de prévision, de déduction, d'anticipation, de devinette, de flair. Bref, la vraie intelligence musicale, quoi. Alors, on a entendu cette juxtaposition d'exemples fredonnés et joués. Comment ça s'est passé pour vous, tout simplement, le travail de recherche, d'enquête pour arriver à entendre et à identifier toutes ces tchorani, ces ruses?
Bien, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, tous les mots que vous avez évoqués, c'est des mots que les musiciens eux-mêmes emploient. Donc j'ai essayé du coup de discuter avec eux de musique et aussi de leur proposer des petits exercices d'analyse un peu dirigés. Notamment, j'avais un problème, c'était de transcrire ces mélodies. Parce que lorsque une fanfare joue, donc la ligne mélodique est jouée par 4 ou 5 personnes, des trompettes, des clarinettes, parfois un saxophone, et il n'y en a pas deux qui jouent exactement la même chose. C'est une subtile hétérophonie qui est recherchée, mais qui est difficile à suivre pour une transcription. Donc moi, j'essaie d'avoir une mélodie, un peu un prototype comme ça. Donc je transcrivais un peu à l'oreille, j'essayais de faire une moyenne des différentes variations. Après, pour m'assurer que la moyenne était valable, je la mettais dans le logiciel de transcription.
Qui rejouait la transcription.
Voilà, qui a un petit synthétiseur et qui rejouait la transcription. Et ça, en fait, bon, au début, je le faisais juste pour valider les transcriptions. Mais en fait, je me suis rendu compte que les musiciens aimaient beaucoup aussi réagir là-dessus et du coup proposer d'autres variantes, dire oui, on peut le jouer comme ça, mais regarde, moi, je la joue comme ça. Et c'est
stimuler le commentaire et le discours.
Voilà, donc on peut entendre. Du coup, j'enregistrais ces entretiens où on entend un petit peu le synthétiseur du logiciel.
Donc là où nous sommes dans la cuisine.
De Kostik, qui est le chef de la fanfare à Choukar, la fanfare avec laquelle j'ai le plus travaillé, c'est chez lui que j'habitais. Et donc on est avec Kostik, Didik, son fils, Chippy, son frère, et je pense qu'il y a aussi Kouline à sa mère et Marianne à sa femme. Donc c'est la cuisine en fait. Hein,
tout et tout le monde écoute les transcriptions jouées par l'ordinateur.
Voilà, il y en a qui écoutent attentivement, c'est surtout les hommes qui écoutent attentivement et qui donnent leur avis. Les femmes vont et viennent, mais donnent aussi parfois un avis. Et voilà, on passait des après-midi comme ça à travailler sur la musique.
Stars age.
Alors on a entendu par exemple le petit rire hein, du musicien. Parce que là, en fait, justement, on avait mis un peu avant avec Ostik, on avait mis une chorénie, une de ses malices. Et son frère, donc, quand il a entendu ça, quand il a entendu le synthétiseur jouer ça, il a dit « Ah !» La réaction à ces petites astuces, ces petites ruses, pour les musiciens, c'est parfois simplement de rigoler, en fait. C'est des petites blagues comme ça. Et puis après, là, ensuite, il y avait un morceau qui n'allait pas, donc on l'a rectifié. C'est ce genre-là de séance de travail qu'on avait.
Victor Alexandre Stoïkitsa, alors c'est toujours très intéressant et très immersif en réalité d'être dans ces séances de travail. Est-ce que tous les musiciens qui ont un petit peu d'oreille, ou les mélomanes, identifient toujours les mêmes tchorani, les mêmes ruses, les mêmes endroits?
Eh bien, pas exactement, pas forcément. Alors, c'est un effet subjectif avant tout. C'est-à-dire, c'est le moment où on sent que la musique vous attrape ou qu'elle fait quelque chose un peu d'inhabituel. Mais on est plus ou moins disposé à se laisser attraper selon qu'on écoute son frère, comme c'est le cas ici, ou un concurrent. C'est-à-dire, si j'allais voir le concurrent de Kostik de l'autre côté, je lui demandais « Alors, c'est quoi les tchorani du jeu de Kostik ?» On écouterait ça. Il y a fort à parier qu'il n'en trouverait pas beaucoup, parce que ce serait reconnaître de la qualité. Enfin, il est d'emblée un petit peu plus fermé à la musique. Mais en gros, il y a des choses aussi sur lesquelles tout le monde s'entend, c'est-à-dire qu'il y a des tournures qui sont droites et d'autres qui sont tortueuses. Et lorsque l'on joue tortueux, ça on l'entend en fait. Tout le monde est d'accord pour entendre ce côté tortueux. Et
la malicieux. Vitesse, j'imagine, permet de masquer un petit peu ces tchorani, de les rendre un peu plus subtils.
Oui, plus subliminal, plus subliminal. Mais alors, l'autre chose qui m'avait étonné un peu en Moldavie, c'est que la vitesse n'est pas du tout associée à la virtuosité. C'est-à-dire, jouer virtuose, ce n'est pas jouer vite, c'est jouer lentement. Comme en fait, dans pas mal de musique, en fait, on retrouve
Ray
ça
Charles.
Finalement. Voilà, exactement.
Le tempi limite de Ray Charles.
Ouais. Voilà, mais comme c'est des fanfares qui jouent extrêmement vite et qui sont très prisés en Occident pour ça, en fait, on les décrit comme virtuoses parce qu'ils jouent à 180 à l'heure. Mais en fait, pour les musiciens, non, la virtuosité de fanfare, c'est de jouer lentement, et notamment parce que lentement, on peut entendre l'harmonie. Il y a une virtuosité de l'harmonie aussi qui est très importante.
Alors justement, cette idée d'harmonie, ça c'est aussi l'autre plan. C'est-à-dire qu'on entend, depuis le début du carnet voyage, on entend justement ces lignes mélodiques jouées par les meneurs. Il y a toujours un meneur, j'imagine, dans la fanfare. Et puis il y a tout l'arrière-plan qui est cette espèce de spectre harmonique avec des lignes qui sont aussi très virtuoses, notamment la ligne de basse.
Oui, alors la ligne de basse, donc, il faut vous imaginer que dans une fanfare typique, l'harmonie est assurée par en gros 4 personnes, au moins 4, parfois 5. Deux gros tubas qui jouent à l'octave, donc il y a un tuba en si bémol et l'autre en fa qui joue à l'octave, et deux petits tubas qui font les contretemps. Donc en fait, les gros tubas font le pom, 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 et les autres, les petits tubas font le contretemps. Pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom. Tout ce monde doit se coordonner pour jouer la même chose, doit se coordonner avec la mélodie. Et comme la mélodie est susceptible de changer, parce que les gens remplacent une partie par une autre, ou simplement parce qu'il faut s'adapter à la performance, on passe d'une mélodie à l'autre, et que les musiciens ne se voient pas, ils sont dans une situation où ils ne se voient pas non plus les uns les autres, donc ils ne peuvent pas se faire des signaux visuels, ils jouent tous avec le pavillon vers les auditeurs, et du coup ils ne voient que le dos les uns les autres. Eh bien, il y a une certaine difficulté à coordonner cette section harmonique, une difficulté dont on ne se rend pas forcément compte au premier abord lorsqu'on vient du monde occidental où les choses sont planifiées, notées, etc. Là, c'est des musiciens qui, évidemment, n'utilisent pas l'écriture et qui, en plus, ont très peu de répétitions. Ça, c'est l'autre chose.
Une des grandes questions. Oui. Est-ce qu'ils répètent ou est-ce que, justement, à partir d'une certaine notoriété, un certain métier, c'est presque se décrédibiliser que de répéter?
Absolument, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, lorsqu'on répète, on le fait en cachette, et en tout cas, on répète le moins possible, en fait. C'est aussi ça que recouvre cette idée d'intelligence, de ruse, d'astuce, ça permet de jouer sans répéter, ça permet de deviner ce qui va se passer sans travailler. Si vous arrivez à un résultat en travaillant, bon, c'est bien. Mais si vous y arrivez sans travailler, alors là, c'est que vous êtes vraiment malin.
Et sur cette harmonie idéale, Victor Alexandre Stoïkitsa, vous êtes allé voir toujours Didik. Avec votre ordinateur ?
Oui, alors je suis allé voir Caustic. Voilà, c'est avec Caustic que j'ai le plus travaillé. Donc il y avait cette mélodie, on l'a entendu jouer par la fanfare tout à l'heure, et puis on a entendu juste la partie mélodique. Et donc un long soir d'hiver, les routes étaient enneigées, on était bloqués dans le village, on s'ennuyait un peu. Donc j'ai proposé à Caustic de refaire l'harmonie de la fanfare, non pas à partir de l'enregistrement, de ce que les gens avaient joué, mais à partir de ce que lui avait en tête. Parce qu'il me disait toujours que lui, si seulement il avait les bons musiciens, là il n'avait pas les bons musiciens, si seulement il avait les bons musiciens, il ferait des merveilles. Et donc, il m'a fredonné comme ça l'harmonie pour lui idéale. Et on l'a mise donc sur la mélodie. Après, on l'a fait écouter à d'autres musiciens, pareil, pour des réactions.
Vezi, poate mai... Ascultă, ascultă, poate mai rămas o greșeală, să ne spui.
Da, eu greșeală, că o spune unul. Spune unul, tare, zic. Pam, 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 mă, nu stai.
Da, e altă formulă de armă.
Așa și avea fără.
Altă fără.
E ca zi puritanie, chiar la de aia.
Da, da, așa vreo să am fie oră.
Dar tot așa m-a dat, pam, pam,
pam. E la ea hativrea.
A luat-o, aici e mai sofisticat, aia e clasică.
Care? Vreau să spun.
Tam, 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 pam, 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 pam. Să nu
te amas în doi. Hai să adevăratul.
Toujours dans la cuisine de Caustic dans le village de Zeshepredjin, avec vous, Victor-Alexandre Stoïkitsa, sur cette recherche de l'harmonie idéale, une manière aussi de stimuler des réactions. Et on s'aperçoit, c'est vrai qu'en vous écoutant, que ces musiciens ont une oreille absolument extraordinaire. D'où cette idée, à partir de quand devient-on un laoutard? Donc objectivement, à partir de quel âge? Parce qu'il dit notoriété, dit sagesse, dit maturité, dit aussi apprentissage de tout ce stock. Comment ça s'apprend? Et surtout, à quel âge devient-on un vrai professionnel, quoi ?
C'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment la réponse parce que c'est quelque chose d'extrêmement graduel. Il n'y a pas d'apprentissage formalisé. Les jeunes n'apprennent pas à certains moments avec leurs parents. Ils apprennent par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en général, ils prennent un instrument qui appartient au père, à l'oncle, etc. Puis ils vont dans la pièce à côté et puis ils jouent. Et ils essayent de jouer. Il n'y a pas un répertoire particulier pour les débutants. Ils essayent de jouer les mêmes mélodies que tout le monde. Ils ne font pas des gammes, ils ne font pas d'arpèges, ils ne font pas tout ça. Ils essayent directement de jouer les mélodies. Mais alors forcément, comme les mélodies sont un petit peu virtuoses et qu'ils ne savent même pas manier l'instrument au début, ils sont obligés de trouver, de dériver des variantes qui sont à leur portée. Et dans ce travail de dérivation, de variation, eh bien, les musiciens disent qu'en fait, c'est le même travail que font les débutants que celui que font les plus virtuoses lorsqu'ils font des variantes rusées, astucieuses. Au fond, c'est la même capacité. C'est-à-dire qu'il faut être malin pour apprendre la musique dès le plus jeune âge, et c'est une compétence qu'après, on ne fait que perfectionner au fur et à mesure. Alors, à un moment donné, lorsque les jeunes sont suffisamment adroits, disons, bon, il y a un oncle, un cousin, leur père qui les prend avec eux dans un mariage. Et voilà, ça continue comme ça. Mais c'est un apprentissage extrêmement graduel et toujours basé sur cette capacité de ruse, d'intelligence. Tanta 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 tan
Stimați auditorii, această casă de norocită este pe... Căruța aceea lui! Această casă de norocită este pe rapă. Primul este Gulu, solist vocal. Al doilea, Bogdan, bas, bulbas. Al treilea, Mirel, bariton.
Carnet de voyage en Roumanie avec vous, Victor Alexandre Stoichkiza. On apprend en fredonnant. En réalité, ce qu'on entend là, ils ont quel âge? C'est des adolescents?
Oui, ça c'est des ados, ados et pré-ados. Oui, ils sont assez jeunes, ils ont entre 10 et 15 ans. Oui, c'est...
Donc ils ne sont pas encore passés à l'instrument, c'est-à-dire clarinette ou saxophone?
Bon, ils jouent parfois peut-être dans la chambre d'à côté, mais en fait, une des caractéristiques aussi de l'apprentissage et aussi du jeu des musiciens plus aguerris, c'est qu'en fait, on met au point les mélodies, on met au point le jeu beaucoup en fredonnant. C'est ce fredonnement qu'on a aussi entendu un petit peu avant dans les exemples un peu analytiques. Ce fredonnement extrêmement précis. En fait, les gens fredonnent tout le temps. Ils fredonnent en voiture, ils fredonnent dans la cuisine, ils fredonnent. Lorsqu'on discute à deux, le troisième est en train de fredonner. Il y a toujours, c'est assez omniprésent. Et ce dont je m'étais rendu compte, c'est qu'en fait, dans ce fredonnement, les gens essayent des variations. Ils remodèlent la musique, par exemple, en modifiant certains motifs. Ils les changent pour d'autres. Et du coup, après, lorsqu'on sait un minimum manier l'instrument, donc lorsqu'on a un petit peu un canal un peu transparent entre le cerveau et les doigts, le gros problème qui reste à résoudre, c'est juste le cerveau, en fait. C'est-à-dire, c'est juste mettre dans le cerveau les bons modèles musicaux, les bons parcours. Et ça, on peut tout à fait le faire en fredonnant. Et ça a l'avantage, bien sûr, qu'on n'est pas en train de répéter. Et que, donc, on peut le faire partout, d'une part. Et puis, en plus, on peut dire après, bon, moi je joue sans répéter, moi je joue la mélodie comme ça. Et plusieurs fois, j'ai vu des gens prendre des nouvelles mélodies, donc des mélodies qui arrivaient un peu dont c'était la mode, et sans jamais les avoir jouées auparavant, directement dans un mariage, en produire une version assez élaborée. Et c'était parce qu'en fait, ils les avaient fredonnés pas mal avant et ils avaient mis au point la structure de ce qu'ils allaient jouer avant.
France Musique.
Microfon, că am înregistrat.
Ai înregistrat acolo. Unde ai fost, mamă? Unde ai fost tu încolo?
Uite că ai sus. Am fost așa, o lașoare.
Bun. Înregistrează, tata.
Tu-te, mamă, acolo. Tu-te, mamă. Nu, mai stau, mamă. Ai venit.
Carnet de voyage avec vous, Victor Alexandre Stoichkiza. Nous restons en Roumanie, mais nous passons quand même un cap, parce que là, nous allons vers la musique des orchestras. On laisse un petit peu Zézé Prejean, parce qu'on joue des orchestras, Zézé Prejean, ou pas? Parce que la profession de la outari, en réalité, a beaucoup évolué. C'est-à-dire que ce que vous dites dans votre livre, Fabricant d'émotions, c'est qu'on est passé des tarafouris aux orchestras. Qu'est-ce qu'un orchestra? Et puis des orchestras qui intègrent des synthétiseurs. Tout se fait au synthétiseur, quoi. Est-ce que le métier a évolué de l'outari ou pas?
D'un côté, il a évolué, c'est-à-dire que les instruments changent tout le temps, et donc là, il y a une évolution claire. De notre côté, les fondamentaux restent les mêmes, c'est-à-dire c'est toujours jouer sur commande, à la demande, et produire, être efficace par la musique, animer des ambiances. Alors les orchestres, donc c'est l'autre ensemble qui est joué dans la région. Les fanfares sont l'ensemble emblématique de la région moldave. Mais les orchestres, c'est des ensembles qui sont développés à l'échelle de la Roumanie. On les appelle orchestres uniquement en Moldavie, c'est un terme
donc
moldave.
Dans les années 90?
Oui, je crois que le mouvement a commencé dans les années 80 déjà, et peut-être même 70, avec les premiers instruments amplifiés, et s'est poursuivi. Là, en fait, ce qui définit l'orchestre maintenant, c'est la présence du synthétiseur, vraiment. Le synthétiseur, il ne fait que l'harmonie, à la base. Il ne fait que l'harmonie et la boîte à rythme. Alors, l'harmonie, c'est donc la ligne de basse, les contretemps, et parfois aussi des nappes, comme ça, de violon derrière. Et par-dessus, il y a des instruments mélodiques, des voix, parfois des petites percussions. Le tout est amplifié et travaillé, parfois avec des effets spéciaux. Et l'orchestre a remplacé maintenant les fanfares, parce que c'est des ensembles plus petits que les fanfares, donc moins chers, mais qui offrent une variété de timbres et d'adaptations à différents styles musicaux qui est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on les appelle les orchestres, d'ailleurs, parce que c'est un peu un clin d'œil local. On les appelle les orchestres parce que dedans, il y a tous les sons qu'on veut. Voilà.
Musique des orchestras de Roumanie, Victor Alexandre Stoichkita. Alors où sommes-nous actuellement?
Alors là, on est à Zece Prăjini même, dans un mariage qui a lieu dans le village. Alors c'est Costic Panțiru qui joue du saxophone ici et accompagné par son frère Cipi au synthétiseur et Petronel à la batterie. Voilà.
Alors changeant de forme, la fanfare devenant orchestra, dimension un peu plus réduite au niveau des effectifs, les sons changent, mais y a-t-il toujours de la malice, de la ruse?
Absolument, absolument. Et d'après les musiciens, parfois il peut y en avoir plus puisque l'ensemble étant plus petit, il est plus mobile aussi dans les harmonies, dans les mélodies. On peut passer facilement d'une mélodie à l'autre. Là, depuis qu'on entend l'exemple, par exemple, on est passé d'une mélodie à une autre, on est revenu un peu à la première. Là, on est en train de revenir encore à autre chose. C'est très modulaire, c'est très motivique. Donc après, quand on a réécouté, par exemple, cet enregistrement avec les musiciens, ils pointaient tout le temps des petites ruses, des petites astuces. Par exemple, alors si on écoute un peu, il va y en avoir forcément qui vont apparaître. Ça, c'en était une, par exemple. On va réécouter encore un peu. Ça, c'en était une autre. Alors ça, quand on a écouté ça, par exemple, les gens ont éclaté de rire dans la cuisine et ils ont dit « Ah, mais là, t'as mis du jazz, voilà. » Alors c'est ce genre de choses qu'on peut faire.
Donc c'est
facilement.
Souvent en fin de phrase, en fait, dans des breaks ou dans
C'est souvent en fin de phrase, absolument. C'est souvent en fin de phrase. Là, c'est le lieu prototypique d'apparition de la ruse. Mais
c'est
ça
une sorte de désinence malicieuse.
Oui, 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 c'est ça. C'est l'endroit où chacun fait un peu ce qu'il veut aussi, les fins de phrase comme ça. C'est
mais est-ce qu'on peut tomber des pièges, Victor?
Alors, dans quel sens
parce que piège pour déstabiliser, j'imagine que non. Mmh. Mais des pièges qui vous mettraient sur une autre route, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'autre stade de la ruse?
Oui, alors, bon, il y a tous les petits jeux entre musiciens d'essayer de faire planter le voisin quand on joue à plusieurs. Bon, ça, c'est un peu pour les connaisseurs. Et puis, il y a un peu des pièges aussi pour les auditeurs, effectivement, où on les entraîne sur une voie. Et puis, en fait, on va dans l'autre sens. Et ça, c'est un des plaisirs de la musique, au moins pour les connaisseurs. C'est pour les connaisseurs, parce que pour le grand public, n'apprécie pas.
À qui est destinée cette ruse? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour les musiciens eux-mêmes, finalement, c'est un entre-soi qui fait rigoler les musiciens, ou est-ce que les gens dans le public du mariage sont aussi très sensibles à ça?
Dans le public de ce mariage-ci, oui, absolument. Parce que là, c'est un mariage donc, dans ce village où il y a beaucoup de musiciens, de musicologues. Et vraiment, les gens écoutent avec attention et il faut leur faire de la musique raffinée. Et aussi, ils arrivent à danser même si on leur tend des pièges. Parce que le problème, c'est que si on tend des pièges dans un village plus paysan, plus, où les gens sont moins en rapport avec la musique au quotidien, les gens n'arrivent pas à danser. En fait, ils se plantent, ils mettent les pieds de côté et ils le reprochent aux musiciens. Donc, il y a vraiment deux catégories d'auditeurs. Il y a ce qu'on pourrait appeler le grand public, qui est l'essentiel du public des musiciens. Et puis, il y a les connaisseurs, qui sont souvent liés d'une manière ou d'une autre aux musiciens eux-mêmes. Mais ce ne sont pas que les musiciens, c'est aussi les familles des musiciens et puis simplement des gens qui sont mélomanes. Voilà. Alors là, vous voyez, par exemple, les musiciens se sont arrêtés pour laisser le saxophoniste faire sa galipette. C'est vraiment comme une petite galipette, il se rattrape sur ses pattes. Voilà. Donc là, ils ont souligné, ils ont compris qu'à chaque fois, il va mettre quelque chose à cet endroit-là. Donc il s'arrête pour le laisser faire. C'est ce genre de petit dialogue aussi entre les musiciens et qui est très apprécié du public aussi.
Alors c'est un peu un art de la liaison, j'ai l'impression, Victor-Alexandre Stokitsa, ce meneur qui est saxophoniste ou clarinettiste, doit lier les parties entre les autres et on lui laisse un terrain propice pour aussi mettre en avant, mettre en valeur ses ruses. C'est ce qu'on entend ici dans les breaks et les fins de phrases.
Absolument. Beaucoup de ces ruses sont des liens, en fait. C'est marquer des liens. C'est ce qu'expliquait aussi Kostik tout à l'heure dans la cuisine. Il faut lier les parties entre elles. Et dans la manière dont on fait les liens, il y a des manières plates de faire des liens, disons. Alors, on peut ne pas faire de lien du tout. On peut le faire de façon un peu plate et puis on peut le faire de façon très astucieuse. Donc, c'est une des manifestations de la ruse et de la ténacité. C'est un autre mot qu'il utilise aussi, c'est la ténacité. Ce n'est pas laisser les choses telles qu'elles sont. On vouloir toujours plus. Ne pas jouer la partie A, puis la partie B. Jouer A, un truc spécial, et puis B. Voilà.
C'est intéressant cette idée qu'en fait, le soi se construit dans les interstices des modules, dans les formes.
Et c'est peut-être parce que, bon, on est dans des gens qui sont... traditionnel au sens où c'est pas du tout des musiques qui sont là depuis très longtemps, il y a des morceaux nouveaux qui apparaissent tout le temps, mais c'est des musiques qui n'ont pas vraiment d'auteur, que tout le monde joue au même moment, tous les musiciens vont jouer à peu près les mêmes musiques, et les auditeurs s'attendent à ce que les musiciens jouent les mêmes musiques. Donc du coup, ce qui reste un petit peu pour se distinguer les uns des autres, ce sont les interstices, les transitions. On peut aussi faire des choses un petit peu plus manifestes, comme par exemple dans une mélodie qui a trois parties, remplacer complètement la troisième, donc prendre complètement les gens par surprise, on peut le faire, mais cette manifestation de l'intelligence musicale, elle est toujours dans un contexte où tout le monde joue à peu près la même chose et tout le monde va jouer la même chose parce que si, lorsque certaines ruses apparaissent, les autres s'empressent de les copier. C'est aussi un train de créativité
et de renouvellement permanent. Mais alors, est-ce que la vision qu'on a en France ou ailleurs en Europe de ce que c'est qu'une fanfare roumaine n'est pas un petit peu biaisée? Parce que vous me disiez, ce qu'on appelle musique tzigane en France s'appelle souvent musique roumaine en Roumanie et on a quand même, selon les commanditaires ou les contextes de mariage de ces orchestras, selon si on joue pour des tziganes ou pour des roumains, j'imagine que ce n'est pas le même degré de russe, que la musique ne va pas être la même, si ?
Non, absolument, ce n'est pas le même degré. Alors, c'est assez complexe, en fait, pour mettre les bons mots dessus. En gros, il y a de grandes logiques de l'identité musicale. L'une qui est de suivre l'identité des musiciens, donc de dire, par exemple, puisque ce sont des musiciens tziganes, eh bien, c'est de la musique tzigane. Et c'est en gros sur ce principe-là que fonctionnent beaucoup de festivals et de disques qu'on appelle musique tzigane en Occident. Et puis l'autre logique, qui est plutôt celle qu'on va retrouver dans le discours des musiciens eux-mêmes et puis de leurs auditeurs roumains, prend en compte le fait que ce sont des musiciens professionnels qui jouent sur demande. Et donc, du coup, s'ils jouent pour les Roumains, ils vont vraisemblablement jouer de la musique roumaine. Les Roumains ne demandent pas de la musique tzigane, explicitement. Lorsqu'ils jouent pour des Hongrois, ils vont jouer plutôt de la musique hongroise. Et pour des tziganes, plutôt de la musique tzigane. Alors, en fait, localement, ces différences ne se traduisent pas forcément par des différences de répertoire. Ce n'est pas forcément des mélodies vraiment différentes. Ça peut être juste des styles différents, des manières différentes de jouer.
Batarezza Gadjikani. Alors, comparaison avec vous, Victor-Alexandre Stokitsa. Là, ce qu'on a entendu, c'est vrai qu'avec un petit peu d'entraînement, un peu plus de lyrisme, un petit peu plus simple, moins de russe, donc c'est un style plus roumain et moins tzigane, c'est ça ?
Voilà, ça c'est ce qui s'appelle le style Gadjikani, donc le style pour les Gadjé, donc pour les Roumains en Roumanie, d'après les musiciens. Donc c'est un tempo rapide. La boîte à rythme est réglée pour faire ressortir la grosse caisse. On entend bien la pulsation et ça, ça aide beaucoup les danseurs. Donc, ils savent où mettre le pied.
Alors, donc, même dans le traitement du son, on peut...
Absolument, absolument. Il y a un son gajikani comme ça, qui fait boum, 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 boum. Et avec la mélodie qui ressort bien dessus. Et la mélodie qui est traitée avec une relative simplicité. On peut entendre les mêmes musiciens qui jouent le même morceau, cette fois dans un baptême pour des auditeurs tziganes.
La même Serba, Victor Alexandre Tsoïkitsa, mais jouée dans un mariage pour des tziganes, par des tziganes. Alors, en gros, à quoi tient cette différence?
Là, on a entendu, le tempo est beaucoup plus lent que dans la première version. La grosse caisse est cette fois réglée vers l'arrière du pattern de la boîte à rythme. Et du coup, les variations rythmiques de la basse qui est faite au synthétiseur, elle
ressort. On revient à l'harmonie idéale.
Voilà,
une basse plus foisonnante.
Foisonnante, on entend mieux ce parcours de la basse, ainsi qu'une sensation de flottement comme ça, un peu millimétré, qui est créée par le charlet de la boîte à rythme.
Mais donc indansable, ça, c'est.
C'est dansable.
Pour des Roumains.
Pour des Roumains, c'est indansable, absolument. Ça, si on joue ça dans un mariage roumain, de grand public, comme ça, les gens protestent. Az et Tchepregine, on peut tout à fait danser là-dessus, mais on peut aussi simplement écouter, et les gens prennent beaucoup de plaisir à écouter. Du coup, aussi, on leur donne des choses à écouter, par exemple ce jeu très libre et un peu plus tortueux du saxophoniste qui est secondé ici par un accordéon, et on peut écouter ce que ça donne en comparant juste les premières parties d'un morceau et de l'autre. Donc on va passer très vite sur de la première partie de la version gajikani à la première partie de la version romani.
Alors, toujours un peu binaire, il faut se méfier de tout ça. Évidemment, avec vous, Victor-Alexandre Tsoïkitsa, entre le style des gadgets, le style des Roumains, et puis le style des Tziganes. C'est un peu plus compliqué que cela quand même.
Oui, c'est plus compliqué en fait. C'est-à-dire que gajikani et romani, c'est les mots qu'on emploie au quotidien lorsqu'on parle de ces deux styles. On dit gajikani, c'est le style pour les gadgets, romani, c'est le style pour les Roms. Mais en fait, tous les musiciens savent que c'est plus compliqué parce qu'il y a des Roumains qui écoutent en fait vraiment comme des mélomanes. Il y a certains villages.
Qui écoutent de la musique tzigane avec les mêmes oreilles et,
voilà.
Et à l'inverse.
Et l'inverse aussi, voilà. Les tziganes qui écoutent où il faut que ce soit simple, droit et direct.
Mais du coup, la vision qu'on a des fanfares dites roumaines en France, est-ce qu'elle n'est pas un peu biaisée par rapport à cet ADN aussi de tziganité, pour faire un mauvais néologisme, ou dans l'autre sens?
C'est dans l'autre sens, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que les fanfares, en général, les fanfares de Roumanie qui voyagent en Occident, ils voyagent comme fanfares tziganes. Et c'est vrai qu'elles sont constituées essentiellement de musiciens tziganes. Mais le répertoire qu'elles jouent, et surtout sur les scènes occidentales, c'est un répertoire qui, en Roumanie, serait un répertoire roumain, voire même folklorique roumain, c'est-à-dire ce qui est vraiment le plus, qui va le plus dans l'authenticité supposée, symbolique, idéale de l'âme roumaine. On peut en entendre peut-être un exemple.
Oile nu mă cunosc, băi, mă cunosc fetițele, băi, să le țugurițele, hei, 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 hei! Păi de trei ori pe lângă sână, ca să iasă vânza bună, și șobanul-i supăra, băi, că mioara e furat, hei, 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 hei! Păi cine sare cum sare, bă? Păi dau 100 și mai gine. Cine sare ca și gine? Hei, 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 hei!
Victor Alexandre Stoichitsa, carnet de voyage en Roumanie. La fanfare Ciucarlea avec vous, Victor Alexandre Stoichitsa. Alors, c'est vrai qu'on se dit quand même, en fait, ce truc-là n'est pas possible, parce qu'un chanteur qui chante avec une fanfare de la Outari, c'est pas possible au niveau du volume sonore.
Absolument. Déjà, au niveau du volume sonore, on peut pas. Donc, il faut une amplification, quoi. Il faut un microphone pour ça. Or, en fait, un des gros avantages des fanfares sur le marché local en Roumanie, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'amplification et qu'elles peuvent jouer, du coup, en déambulation. Il n'y a pas besoin d'installer des micros, tout ça. Donc, ça n'arrive jamais, en fait, que des gens chantent, surtout de façon soliste, comme ça, avec la fanfare. Mais en plus, là, ce qu'on entend, donc, c'est un morceau qui fait partie du répertoire folklorique archi-connu de l'État roumain. Donc, c'est un morceau qui était extrêmement joué dans la période communiste et continue à l'être après, comme un morceau emblématique d'une certaine identité roumaine.
Parce jusque que dans le texte.
Jusque dans le texte, absolument. Les paroles parlent d'un ciobanaș, donc d'un petit berger. Alors c'est l'univers des bergers, très très pittoresque comme ça. L'univers des bergers avec ses moutons qu'il a perdu, qu'il a retrouvé, avec sa belle qui est en bas et qui lui manque. Alors c'est le genre de choses, le genre de thématiques qui ne concernent pas du tout les Roms en Roumanie. Si on chantait ça dans un village rom, les gens le prendraient vraisemblablement mal. Enfin, c'est
et pour quelle raison ?
Eh bien parce qu'ils penseraient qu'on se moque d'eux en quelque sorte. Alors c'est ce que m'ont dit les musiciens avec lesquels j'en avais discuté disaient, on ne peut pas jouer ça chez nous parce que ça ne nous concerne pas du tout, c'est vraiment le style des gadgets, ça voudrait dire qu'on nous prend pour des gadgets en quelque sorte. Et à l'inverse aussi, si la fanfare se mettait d'elle-même à jouer ça dans un mariage roumain, ça aussi ce serait un petit peu bizarre parce que...
Un peu ironique. Ouais.
Voilà, il y aurait ce côté un petit peu ironique parce que c'est vraiment des paroles, un univers et une identité qui semblent tellement attachées à la roumanité autochtone dont les tziganes sont un peu exclus par, idéologiquement, que ça pourrait paraître une forme d'ironie. Après, c'est le genre de morceau qui voyage tout à fait au-delà des frontières de la Roumanie comme musique tzigane. Comme on peut le voir là, c'est vendu sur un disque de musique tzigane et ça passe dans les festivals de musique tzigane.
Et donc, à l'inverse en fait, de cette musique-là, qu'on ne trouverait vraisemblablement pas dans un univers tzigane en Roumanie, il y a une vraie musique de connaisseurs, on en parle depuis le début de ce carnet de voyage, musique de style, au raffinement extrême, mais qui, pour des oreilles non éduquées, paraît un petit peu superficielle. C'est-à-dire qu'il y a la musique pas inécoutable, mais qui nécessite quand même d'avoir un certain code stylistique.
Absolument. Enfin, en tout cas, mon expérience personnelle, bon, c'est pas que la même, mais mon expérience personnelle, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans cette musique-là de connaisseur au début. Au début, moi, je suis arrivé à ces musiques-là par les morceaux comme celui qu'on vient d'entendre, que je trouvais très vivant, très joyeux, très drôle. Mais alors, vous avez remarqué, le morceau qu'on vient d'entendre, en gros, il est dans la même tonalité majeure d'un bout à l'autre. Ça ne change pas. Le morceau qu'on va entendre maintenant, il change tout le temps. L'harmonie est beaucoup plus compliquée. C'est le genre de morceau qui est pour les connaisseurs. Donc, en l'occurrence, ça vient d'un disque de Florin Tarits, qui est vendu sur le marché local, mais qui est très peu vendu. Il n'y a que les connaisseurs qui l'achètent et qu'on entend très, très rarement en Occident.
Thank you.
Victor Soekitsa, oui. Mais alors pourquoi, comment faut-il entendre l'inversion des plans?
Oui, petite clé d'écoute. Donc là, il ne faut pas écouter la mélodie en tant que telle. Il faut écouter l'harmonie par rapport à la mélodie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter la ligne de basse et l'harmonie et laisser flotter un peu la mélodie un peu à l'arrière-plan. Un peu comme si dans un concerto, vous décidiez que ce sont les basses qui donnent sens au thème du piano.
De connaisseur Victor Alexandre Stoekitsa. Alors, comme instrument, juste pour les auditeurs du carnet voyage, ce qu'on entend, tout n'est pas que du synthé. Il y a pas.
Non, il y a le saxophone. Saxophone. Hein, et il y a un cymbalum qui est un vrai cymbalum. Voilà, et tout le reste qui vient du synthétiseur. Donc la ligne de basse et l'espèce de guitare qui fait le contretemps.
Alors, on entendait tout à l'heure la fanfare Tchokarla avec cette ligne de chant peu probable dans un contexte purement tzigane ou pour des tziganes. Et à la fois, quand même, on a des choses quand même beaucoup moins connues. Dites plus authentique, c'est toujours un peu compliqué ce terme-là, d'authenticité, mais où l'identité tzigane est remise en question, notamment au travers d'expressions purement vocales.
Absolument. C'est-à-dire que là, jusque-là, on a écouté des leoutak, donc des musiciens professionnels, très souvent tziganes, mais dont la caractéristique première est qu'ils sont professionnels, donc ils jouent pour les autres. Et en général, les leoutards ne peuvent pas se spécialiser pour le public tzigane, parce qu'en fait, c'est un public qui est minoritaire. C'est une minorité ethnique, c'est la troisième minorité du pays, derrière les Hongrois, donc ce n'est pas beaucoup de monde, en fait. Du coup, économiquement, ce ne serait pas très rentable si des musiciens se spécialisaient. Il y en a quelques-uns qui jouent surtout pour les tziganes, mais en gros, la plupart des leoutards jouent en premier lieu pour les Roumains, éventuellement pour les Hongrois, et en troisième lieu pour les tziganes. Mais aux côtés de cela, il y a aussi certaines musiques, mais ça se passe dans d'autres communautés, qui sont jouées de façon non professionnelle, juste entre soir, comme ça. Et ce sont d'autres communautés, et c'est des musiques qu'on entend beaucoup, beaucoup moins en Occident, et même en Roumanie. Napoléon Constantin, qui est-il, Victor Alexandre Stoekitsa? Alors, ce chanteur qu'on entend, donc c'est Napoléon Constantin du village de Gratia, un peu au sud-ouest de Bucarest. C'est un chanteur amateur, on peut dire, c'est-à-dire il ne joue pas du tout comme Lautar, comme les autres musiciens qu'on a entendus. Il chante pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Donc là, il est assis sur un tonneau qu'il percute avec deux cuillères de métal et son talon gauche dénudé. Donc il fait la basse, il a une petite technique comme ça, ça lui permet de faire la percussion. Mais en l'occurrence, cette percussion, là, surtout maintenant, ce qu'on entend maintenant, ça imite le cymbalum. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de chant qui, normalement, au cymbalum, se ferait ram, tam, 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 tam. Il y aurait des notes dessus. Voilà. Et c'est un style qui se pratique dans la région, que les musiciens professionnels peuvent jouer. Mais si les musiciens professionnels chantaient ça, ils ne chanteraient pas les paroles que chante actuellement Napoléon. Déjà, là, actuellement, Napoléon chante en romanesque, en langue tzigane, ce qui est, comme je l'expliquais tout à l'heure, du coup, ce n'est pas ce que font les musiciens, les léotards, le plus souvent, puisqu'ils s'adressent le plus souvent à des Roumains. Et que d'ailleurs, la plupart des léotards ne parlent pas romanesque du tout, la langue tzigane. Donc lui, il chante en tzigane et il chante, en fait, des paroles tristes, globalement, nostalgiques, sur le malheur d'être né et les différents malheurs qui arrivent derrière. Ce n'est pas une histoire très, très claire, mais dedans émergent des souvenirs de prison, un forfait pour lequel certains ont été enfermés, ils ont été trahis par d'autres. Alors la trahison apparaît comme ça derrière. Puis quand il sort de prison, tout a changé, il n'y a plus que sa mère qui est là, etc. Alors ça, c'est le genre de paroles qui sont fortes, nostalgiques, et qui sont d'une poésie qui est associée, les acteurs associés au monde tzigane, mais qu'on entend très peu en dehors.
France Musique.
Napoléon Constantine du village de Grazia, dans la plaine du Téléorman, vous me disiez, à côté de Bucarest, en réalité, Victor Alexandre Stoechitsa. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand même, parce qu'on touche finalement aux questions d'identité, c'est particulièrement intéressant en ce moment, mais de distinction aussi, puisque ce village a une petite particularité, c'est qu'il y a des quartiers tziganes que tout oppose en réalité.
Absolument. En fait, c'est un village dominante roumaine, et en gros, pour simplifier, les Roumains sont au centre géographiquement, et puis d'un côté, il y a un quartier tzigane, et de l'autre, il y a un autre quartier tzigane. Et alors, dans chacun des quartiers tziganes, les gens ont des relations avec les Roumains, mais alors ils s'évitent soigneusement, les gens des deux quartiers tziganes s'évitent soigneusement les uns les autres. Et c'est des styles, des manières d'être qui sont assez différents. Dans l'un des quartiers, on va retrouver des léotards, et puis d'autres gens, d'autres occupations, mais qui sont, disons, roumanisés, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils s'habillent un peu comme les Roumains, ils ne parlent pas romanais ou très peu, ils ont des activités économiques plutôt imbriquées dans l'économie locale, ils travaillent parfois à Bucarest. Tout ça. Alors, de l'autre côté, par contre, là où est Napoléon, c'est très différent. Déjà, c'est une communauté où les gens s'habillent de façon distincte, surtout les femmes, pour des longues robes fleuries avec des tresses, donc on les reconnaît tout de suite dans la rue. Les hommes aussi ont quelques astuces vestimentaires comme ça un peu différentes. Ils parlent romanais, c'est un bon romanais. Voilà, ils parlent aussi roumain, tous les Roms en Roumanie parlent roumain, mais eux, ils parlent romanais, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Roms en Roumanie, en fait. La majorité des Roms ne parlent pas romanais. Là, ces gens-là parlent romanais et leurs activités économiques sont extrêmement difficiles à caractérisée, un peu faite de petites choses, de débrouillardises ici et là, entre la Roumanie et d'autres pays. Et dans le cas de Napoléon, c'est intéressant, lui, le métier qu'il avait appris de ses parents, c'était cercleur de roues de charrette. Alors, cercleur de roues de charrette, c'est le métier que pratiquaient traditionnellement certains tziganes. Donc, il s'agit de mettre un cerclage en fer autour des roues de charrette qui étaient en bois. Alors, maintenant, déjà, il y a beaucoup moins de charrettes. Et puis, en plus, les gens préfèrent mettre des pneus sur les charrettes qui restent, des pneus de voiture gonflés, parce que c'est quand même un peu plus confortable. Du coup, bon, c'est un métier qui n'a aucun avenir, enfin, qui n'a aucune viabilité économique. Et Napoléon et sa nombreuse famille, qui est pour le coup assez étendue, essayent de joindre les deux bouts en faisant différentes choses. Aux dernières nouvelles, il était venu en France et il était sans doute dans l'un des nombreux bidonvilles qui ont fleuri. Et ce style de chant, on le retrouve surtout dans ces communautés-là. Et c'est un style de chant, du coup, quand je l'ai fait écouter à mes amis Laotard, par exemple, donc ils sont du côté plus roumanisé. Alors, ils trouvaient ça très, très authentique. Et ça, c'est vraiment le style tzigane authentique, parce que voilà, ils chantent en tzigane, ils parlent de trucs tzigane authentiques. Mais alors.
Mais ça leur semblait
peu c'est un peu sauvage.
C'est sauvage.
Ouais. Ils trouvaient ça un petit peu inquiétant que je fasse écouter ça en France. À d'autres, parce que c'est une image aussi des tziganes qui est controversée pour les tziganes eux-mêmes. C'est une image qui est controversée.
D'où la difficulté de décrire à la fois ces micro-communautés. Est-ce que c'est que l'identité sous le prisme de la musique, quoi?
Absolument. En fait, les micro-communautés sont extrêmement importantes pour comprendre l'univers tzigane. Il faut comprendre qu'il est fait de micro-communautés. C'est quelque chose qu'ont très bien montré les ethnologues. Je pense par exemple au travail de Patrick Williams en France qui a très bien montré ça. C'est qu'il est extrêmement difficile de dire quelque chose de général sur les Roms ou les Tziganes, ou quelle que soit la manière dont on les appelle, parce qu'en fait, il y a beaucoup de micro-communautés. Et une des premières choses que vous disent les gens quand vous allez dans ces communautés-là et que vous commencez à discuter un petit peu, c'est « oui, nous sommes tziganes, mais pas comme les autres ». Et là, dans le cas de Gratia, on le voit bien, c'est à l'échelle du même village, de part et d'autre, les gens s'évitent entre eux. Alors malgré tout, c'est assez intéressant de faire connaître ce côté-là de la musique tzigane. Et en l'occurrence, avec Napoléon, on avait travaillé sur un manuel de chant.
Paru la Cité de la Musique.
Absolument. Manuel de chant, donc on avait fait avec l'équipe pédagogique de la Cité de la Musique, qui s'était beaucoup investi dans ce travail. Luciana Pena, qui était la directrice d'édition, et Gilles Delbar, qui ont beaucoup contribué à faire émerger ce projet. Très intéressant sur le fait que non seulement bon, ça donne une visibilité à ces musiques-là, mais en plus, le style de Napoléon se prête bien, en fait, à des réutilisations pédagogiques. Parce que dans un autre genre de musique qu'il fait, donc qu'on va entendre maintenant, qui sont plus des chants à danser, bien, il a énormément de fantaisies vocales, faites un peu de paroles et un peu de syllabes sans signification. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à travailler avec les enfants, donc c'est ce qu'on avait proposé dans ce manuel. On peut peut-être écouter...
Sandala.
Sandala.
Maladim la peulica, ta-ta-ta-ta-ta, demna kelo benica, agad malangadaun. Maladim la peulica, ta-ta-ta-ta-ta, demna kelo benica, agad malangadaun. Hai de de da tam da, demna kusanda wa, agad malangadata, demna kusanda wa, agad malangadetele, demna kusanda le, agad malangadata, agad malangadaun. Maladim na puma shari, ahda pata tada, kindem na kebaba shari, avet malang daun. Maladim na puma shari, ahda tada tada, dem na kebaba shari, avet malang daun. Hai de da da da, dem na kesandawa, avet malang da da, bang balam bang, balam bang, avet malang da da, dem na kesandawa, avet malang da da, avet malang daun. Bang da da di da da da, ahda tada.
Je l'ai rencontré dans la ruelle, je lui ai acheté une pastèque. Je l'ai rencontré dans le centre, je lui ai acheté un poivron. À Dumalang Dandala, je lui ai acheté une sandale. C'était les paroles chantées par Napoléon.
Avec Napoléon Constantine, nous étions à 100 km de Bucarest. Maintenant, nous y sommes, Victor Alexandre Stoïkitsa. Où sommes-nous exactement?
Nous sommes au centre de Bucarest, dans l'un des quartiers un peu au centre de Bucarest, qui est un quartier assez tranquille, en fait, paradoxalement, comme on peut l'entendre, assez vivant. On entend les oiseaux, on n'entend finalement pas beaucoup de voitures. C'est un petit quartier résidentiel, comme ça. Et on entend, par une des fenêtres ouvertes, on entend un des genres qui est typique de la capitale, qui maintenant est joué dans toute la Roumanie, mais qui dont l'épicentre est la capitale, qui est la manère. Et c'est typiquement le genre de musique qu'on entend par la fenêtre ouverte, quoi. donc on écoute à fond chez soi, dont les voisins se plaignent tout le temps, et aussi dans les mariages, dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, et qui est apparu dans les années 90. Donc c'est un peu emblématique de la transition aussi politique.
Et donc des bling-bling, les nouveaux riches, c'est que ça, qui roulent en Merco.
Alors qui roulent en Merco ou qui aimeraient bien rouler en Mercedes. Parce qu'en fait, alors on le décrit parfois de la manière comme le genre des nouveaux riches. Mais en fait, il n'y a pas énormément de nouveaux riches en Roumanie. C'est-à-dire que c'est malgré tout, il y a des gens qui se sont enrichis de façon exponentielle et très très voyante, mais ils ne sont pas si nombreux. Par contre, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien l'être. Donc ça, c'est un genre qui met en avant cette façon de vivre très bling-bling.
Mais qui aussi a investi les campagnes en retour. C'est-à-dire
oui,
que cette manéa urbaine a aussi investi les campagnes.
Tout comme la Mercedes, le rêve de la Mercedes, absolument. Oui.
Alors en gros, musique est plutôt appréciée, qui a aussi son lot de connaisseurs ou pas?
Alors c'est une musique qui est très controversée en Roumanie, c'est-à-dire les élites, disons, donc les gens qui se prétendent avoir une éducation, une culture, etc., normalement décrit la manéa. Et c'est donc, on entend énormément de critiques très très virulentes dans les médias, dans le milieu universitaire. Mais il y a aussi beaucoup d'amateurs et moi je dirais de connaisseurs, absolument. Allez, allez, debout, toutes les filles. C'est Florine Salam qui crie ça dans une fête d'anniversaire à Bucarest. Donc c'est un enregistrement live, hein, et on entend bien les interactions entre le chanteur, ses musiciens et les auditeurs. Donc
c'est marrant, tout d'un coup, Victor, vous parlez plus fort, je comprends pas pourquoi. Nous sommes en plein anniversaire avec vous, Victor Alexandre Stoïkitsa et ce Florine Salam. Ce qui est quand même étonnant dans ce nouveau genre manéa, c'est qu'il y a un peu quand même une influence orientale.
C'est très très orientalisant, même pour les oreilles roumaines. Hein. C'est une musique exotique, orientale, d'après les standards roumains. On l'entend dans le solo de saxophone, là, par exemple, qu'on entendait là juste à l'instant. Et le rythme lui-même, c'est un rythme en fait qu'on ne rencontre pas dans les morceaux dits autochtones, les morceaux folkloriques. Hein. D'ailleurs, on l'a pas du tout entendu jusqu'à là dans l'émission. Hein. C'est la première fois qu'on entend ça. C'est un morceau qui, par contre, est très très courant dans la musique turque, dans la musique du sud des Balkans. Ce rythme.
Et comment expliquer justement cette importation?
Il y avait l'ethnologue Edouard Saïd qui avait mis en évidence un peu l'orientalisme comme l'autre de l'Orient, qui est à la fois l'Orient et le passé en fait. Il y a une notion de rapport temporel. Et cette musique-là, elle combine en fait ces deux clichés en fait de l'Occident d'un côté avec la Mercedes, on en parlait tout à l'heure, les sonorités aussi très modernes, très travaillées vers les effets spéciaux, électroniques très clairement. Et puis de l'autre côté, l'Orient qu'on entend dans les inflexions mélodiques, qu'on entend dans ce rythme structurel de la manéa et aussi dans les paroles qui font référence aux boyards, par exemple. Les boyards, c'était les seigneurs du temps féodal. Et vous entendez aussi, là par exemple, ce que fait le chanteur, ces espèces d'onomatopées qui rappellent ce que faisait Napoléon tout à l'heure avec le Dumalangdas que je disais.
Ouais, c'est étonnant.
Il rappelle, on a récupéré aussi dans ce style-là cette voix cigane.
Des gimmicks d'authenticité
voilà,
rurale.
D'authenticité rurale, absolument, avec une voix beaucoup très grave comme ça, avec un jeu entre les mots avec un sens sémantique et les syllabes sans signification. Et le tout donc passe soit comme musique orientale, soit comme musique tzigane. C'est aussi ce qui est qualifié de musique tzigane actuellement en Roumanie. C'est un genre qui est appelé musique tzigane, bien que là, encore une fois, là même en Roumanie, la plupart des auditeurs, en fait, statistiquement, sont des Roumains.
Alors, j'imagine qu'il y a une autre face de cet aspect, un petit peu comme un hologramme, qu'il y a aussi des manéas, de la manéa de connaisseurs, pour finir.
Absolument. Alors, on peut dire que Florine Salam, lui, joue vraiment pour tout le monde. Là, ce qu'on entend, ça marche déjà pas mal pour les connaisseurs. Mais alors, pour les connaisseurs, il y a aussi des genres qui sont, par exemple, des longs solos instrumentaux, sans du tout de paroles. Ça, c'est vraiment des moments qui se passent vraiment pour les connaisseurs. Et en l'occurrence, ces solos instrumentaux qui sont joués de façon à l'orientale. En fait, les musiciens, au début des années 90, il y avait très peu de musiciens qui savaient jouer comme ça. Et un des musiciens qui savait jouer comme ça s'appelait Selçuk. Et Selçuk, qui est un Macédonien qui vit à Constanza, donc vers l'est de la Roumanie. Et lui, en fait, il a lancé un style. Alors là, on peut l'entendre avec un groupe dans un mariage, cette fois-ci. Il y a des solos qui se suivent, donc, dans un style à la fois orientalisant et très électronique. On va l'entendre.
Dernière question avec vous, Victor, avant de se dire au revoir. Vous portiez des boules-quies lors de ces mariages?
J'aurais dû porter des boules-quies, j'aurais dû. Je l'ai fait un peu à la fin et c'était déjà un petit peu trop tard. C'est extrêmement fort et le plaisir immersif de cette musique-là est très fort aussi. C'est une musique dans laquelle il faut s'immerger vraiment.
Victor Alexandre Stoïkitsa, un grand merci pour ce carnet de voyage.
Merci à vous.
Voyage en Roumanie, réalisation Claire Lagarde, préparation Adèle Moll, prise de son et mixage Jean-Michel Bernot et Philippe Bredin. La semaine prochaine, Carnet de Voyage vous emmène en plein cœur de l'Amazonie chez les Wayampi de Guyane avec Jean-Michel Baudet.